Hey, vous pouvez me parler aujourd'hui? Donc, on va prendre nos Bibles. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, on va prendre la feuille avec presque tous les versets qui sont marqués dessus. Et on va faire notre déclaration. Tout le monde, on va dire, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est vivante et la parole de Dieu peut nous changer. Donc, on est au milieu d'une série actuellement sur le secret d'une vie heureuse. Encore, combien de gens ici aimeraient mieux être heureux que maudit dans la vie? Amen. Je pense que tout le monde cherche le bonheur. Le problème, c'est que ceux qui ne connaissent Jésus, ils cherchent jamais au bon endroit. Il y a même des personnes dans les églises qui ne cherchent pas le bonheur à la bonne place. Ils cherchent un peu partout, ici et là. Mais qu'est-ce que nous voyons dans la Bible? C'est que Dieu nous a déjà révélé le secret d'une vie heureuse. Et comme on a dit au début de cette série, on peut résumer une vie heureuse en disant ceci. Ceux qui entendent les paroles de Dieu et ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu sont les personnes heureuses. Amen? Il ne faut pas juste être les auditeurs oublieux, mais il faut être ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et on a vu beaucoup de choses en Proverbes chapitre 3. Si vous voulez aller avec moi dans votre Bible à Proverbes chapitre 3, on va commencer là encore ce matin. On a vu que la sagesse de Dieu va de pair avec le bonheur et une vie heureuse. Et on va relire un verset qui n'est pas dans vos notes, en Proverbes chapitre 3, à partir de verset 12. Si vous voulez regarder avec moi, je vous encourage à tourner dans vos Bibles. Ça fait du bien de regarder soi-même. Écoutez pas qu'est-ce que je dis parce que je le dis. Si moi, en tant que pasteur, je dis quelque chose et tu dis, « Ah, je ne sais pas, si est-ce que c'est vrai? » Check toi-même dans la Bible. Ouvre ta propre Bible et vérifie toi-même si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Amen? Donc, là, vous allez pouvoir agir avec confiance et assurance. Proverbes chapitre 3, verset 12 dit, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qui chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. » Et l'homme qui possède l'intelligence. Donc, on voit que la sagesse et l'intelligence sont la clé vraiment d'une vie heureuse. Si tu ne marches pas dans la sagesse de Dieu, tu ne peux pas marcher dans le bonheur. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes là ce matin? Bon! La sagesse de Dieu est indispensable. Il faut marcher dans la sagesse. Verset 14 dit car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. On parle toujours de la sagesse. Dans sa droite est une longue vie. On a prêché sur une longue vie la semaine passée. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Comment on dit la gloire? Une autre façon de dire la gloire, c'est l'honneur. Dieu veut que nous soyons un peuple qui vont vivre longtemps sur la terre. On va voir une autre semaine que Dieu veut qu'on soit prospère dans nos finances, mais il veut aussi que nous ayons la gloire, l'honneur dans la vie. Une personne qui marche dans la gloire de Dieu, la faveur de Dieu, est une personne heureuse. Vous êtes d'accord? On va continuer. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. C'est-à-dire que la sagesse est disponible pour chacun de nous. Mais si nous ne saisissons pas la sagesse de Dieu, nous n'allons pas être heureux. Nous serons, comme on a déjà dit, au lieu d'être un arbre planté près des courants d'eau, nous serons les misérables des buissons dans le désert. Amen? Mais c'est à nous de choisir. On peut choisir le bonheur ou on peut choisir la misère. Mais je crois que nous voulons tous marcher dans le bonheur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le pouvoir d'une bonne réputation. La sagesse de Dieu, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, concernant la sagesse, nous allons développer une bonne réputation. Pas juste avec Dieu, mais avec les hommes aussi. Et c'est une chose qui est très importante. Regardons ici en Proverbes chapitre 3, toujours. On va lire versets 1 à 3. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. » Ça, c'est une longue vie. Et ils augmenteront ta paix. Verset 3 dit que la bonté et la fidélité, comment on dit la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Amen. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Mais j'aime tellement la traduction dans la parole du Seigneur qui dit, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Et tu auras la réputation, comment on dit la réputation, d'être un homme de bon sens. Savez-vous que Dieu veut vous donner une bonne réputation ici sur la terre? Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent dans ce domaine parce qu'ils pensent, parce qu'il y a un équilibre. Alors, laisse-moi vous expliquer une chose. D'un côté, il y a des personnes qui vont dire, moi je m'en fiche de qu'est-ce que les hommes pensent de moi, la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu pense. Est-ce que la personne qui dit une chose de même a raison? En partie oui, en partie non. Parce qu'on voit, qu'est-ce que nous allons lire dans ces versets, c'est que Dieu veut que nous ayons la faveur avec lui, mais il veut nous donner aussi la faveur avec les hommes. Si on n'a jamais la faveur avec les hommes, comment est-ce qu'on va les gagner à Christ? C'est-à-dire qu'on ne devrait jamais vivre juste pour plaire aux hommes, en faisant des compromis. Il y a des personnes, des chrétiens qui vont mettre à côté leurs valeurs, ils vont mettre à côté leurs convictions pour plaire aux hommes, pour être vus des hommes comme des personnes qui sont bien ou bien acceptées. Ça, c'est de la folie, ça, c'est du péché même. Vous êtes d'accord? Mais qu'est-ce qu'on va voir ce matin? C'est que on n'a pas besoin de choisir entre l'un et l'autre. On peut avoir une bonne réputation avec Dieu, mais en même temps, établir une bonne réputation avec ceux qui ne sont même pas dans le corps de Christ, avec les non-croyants. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Une bonne réputation. Une bonne réputation. Le pouvoir d'une bonne réputation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Proverbe 21, verset 1 dit, « Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Et l'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. » Est-ce que vous êtes là? J'ai dit que une bonne réputation vaut mieux que l'argent, vaut mieux que la richesse. J'aimerais mieux avoir un bon nom que d'avoir une portefeuille qui est grosse ou d'avoir un compte à banque qui est vraiment débordant. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que si vous avez une bonne réputation, vous n'aurez pas un problème à garder de l'argent dans votre portefeuille. Vous n'aurez pas un problème non plus d'avoir de quoi satisfaire à vos besoins. Les deux vont de pair. Hein? Dans sa droite, c'est une longue vie. Dans sa gauche, c'est la richesse et la gloire. La richesse et une bonne réputation. Et je crois que l'Église, notre Église et l'Église de Jésus-Christ en général, nous avons besoin de changer notre façon de penser. Pendant des siècles, l'Église nous a enseigné que plus on est pauvre, plus on est saint. N'est-ce pas vrai? Mais laisse-moi vous dire, c'est difficile à amener les hommes d'affaires, c'est difficile d'amener des personnes dans ce monde au Seigneur Jésus, quand on dit que oui, si tu viens à Jésus, il faut que tu sois pauvre ici sur la terre. Est-ce que c'est ça que Jésus a enseigné? Non. Il a enseigné, oui, il faut être prêt à laisser à côté nos richesses, il faut être prêt à donner à Dieu toutes les richesses de ce monde. Mais quand on fait... Qu'est-ce que Dieu veut? Si on cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses nous seront données par-dessus. N'est-ce pas vrai? Regardons bien. Luc 2, 52, c'est dans vos notes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Tout le monde dit devant Dieu et devant les hommes. Dieu veut vous donner une bonne réputation devant les hommes. N'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? Dieu veut donner une bonne réputation à notre Église devant les hommes. N'est-ce pas vrai? Moi, je ne veux pas être connu comme une Église que, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là. Non, je veux être connu dans cette ville comme une église d'intégrité, comme une église qui fait du bien, comme une église qui est digne de confiance, n'est-ce pas vrai? Alléluia, c'est ça que Dieu veut faire pour nous en tant qu'église, mais en tant qu'individu aussi, Dieu veut vous donner la faveur et la grâce, comme il a fait pour Daniel. Regarde bien Daniel 1, 9 et 20, c'est dans vos notes. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait, ça parle de Daniel et ses amis, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Voyez-vous, je crois que si un chrétien est avocat, un chrétien devrait être le meilleur avocat dans le monde. Vous êtes d'accord? Si un chrétien travaille à shop, dans l'usine, je crois que les chrétiens devraient être les meilleurs employés. N'est-ce pas vrai? Hein? Si quelqu'un fait quoi que ce soit en tant qu'enfant de Dieu, on devrait être 10 fois mieux que n'importe qui. Amen? Pas parce que nous sommes quelque chose, mais c'est parce que quelqu'un est en nous. Et c'est lui qui nous a rendus capables. C'est lui qui nous a justifiés par sa grâce. Sans Jésus, je suis fait, je suis perdu, je suis nul, je suis zéro. Vous êtes d'accord, oui? Et je sais que vous êtes d'accord. Mais avec lui, je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Avec lui, je devrais être 10 fois mieux que les autres. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous devrions faire avec excellence, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit ici à l'église. Une autre raison pour laquelle je veux finir cette bâtisse. Notre bâtisse devrait être aussi beau que les restaurants en ville. Amen. Notre stationnement devrait être au moins 10 fois plus beau même. Hein? On devrait avoir un standard de qualité. J'ai pas dit qu'il faut dépenser des millions, mais on peut garder les choses propres. On peut garder. C'est pourquoi je remercie le Seigneur pour la famille Bergeron qui vient nettoyer l'église à chaque semaine avec fidélité. Merci Seigneur. Mais il y a d'autres choses qu'on peut tous faire ensemble. Amen. Que ce soit dans le domaine spirituel, naturel, dans n'importe quel domaine, on peut faire les choses pour établir une bonne réputation. 1 Thessaloniciens 4, verset 11, dans la parole vivante, c'est dans vos notes et c'est tellement fort, c'est frappant même. Verset 11 dit, écoutez bien, mettez votre point d'honneur à mener une vie paisible et tranquille. Efforcez-vous de conserver en toutes circonstances le calme et la sérénité, de vous occuper chacun de ses propres affaires, de faire face à vos devoirs professionnels et de gagner votre vie par le travail de vos mains. C'est bien ce que nous vous avions déjà recommandé. Verset 12. Ainsi, vous vous mettrez à l'abri du besoin. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être à l'abri du besoin? Oui? Ou est-ce que vous aimeriez mieux être dans le besoin? Qui aimerait être à l'abri du besoin? On voit ici comment le faire. À l'abri du besoin, et vous ne serez à charge de personne. Au contraire, vous resterez indépendant de tous. Est-ce que Dieu veut qu'on soit indépendant de tous? Oui et non. On a tous besoin les uns des autres, mais c'est comme on a dit mercredi soir. On a besoin des fois d'avoir de l'aide dans la famille de Dieu, d'appeler les gens, de prier pour moi, je suis dans la misère, j'ai un problème. Mais on a besoin, chacun de nous, de se fortifier soi-même pour être capable d'aider les autres aussi. La Bible dit, portez-vous les fardeaux les uns les autres. Mais dans le même chapitre, la Bible dit que chacun porte son propre fardeau. Amen? J'espère que vous écoutez ce matin. Hein? C'est des bonnes choses qu'on dit. C'est les choses qui vont déterminer la différence entre la misère et le bonheur. Une vie heureuse ou une vie misérable. On va continuer. C'est marqué. Vous resterez indépendants de tous. Une telle conduite commandera le respect des gens du dehors. Soulignez cette phrase. Hein? Une telle conduite commandera le respect des gens du dehors. Elle vous vaudra l'estime et la confiance de ceux qui ne sont pas des nôtres. Quand on dit ceux qui ne sont pas des nôtres, on parle des non-croyants, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. on, en tant que chrétiens, on devrait avoir un bon rapport, une bonne réputation avec ceux du dehors. Les gens de ce monde ne devraient pas penser, oh, c'est juste un gang de fous. Des fois, au niveau de nos croyances, ils vont penser des choses de même. C'est normal. Mais laisse-moi vous dire, en général, la façon qu'on travaille, la façon qu'on met notre vie, ce que nous faisons, notre façon de nous habiller et tout, on devrait commander le respect des autres, n'est-ce pas vrai? Et donc, je pense qu'il y a un équilibre. On ne vit pas pour faire plaisir aux hommes, mais on vit pour faire plaisir à Dieu. Mais Dieu veut qu'on soit agréable à Dieu et aux hommes, dans un certain sens. Amen. Vous me suivez? Vous êtes encore là ce matin? Voulez-vous avoir une bonne réputation? Pourquoi? Parce qu'une bonne réputation ouvre les portes. Une bonne réputation commande le respect et la confiance des autres. C'est une autre raison que je veux finir cette bâtisse. On a dit à la ville, on allait le finir, on a besoin de garder notre parole. Amen? Une bonne réputation amène les récompenses. Si je pense, vous savez qu'une réputation va loin. Si je dis Volvo, est-ce qu'il y a des gens, quand je parle des autres, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent les autos? Si je dis Volvo, est-ce qu'il y a une chose qui vient dans votre tête? Hein? Qualité et sécurité, n'est-ce pas? Volvo a une réputation. Les autos Volvo sont reconnues depuis des années comme les autos les plus sécuritaires sur la planète. On a juste besoin de dire Volvo et on sait, ah, ça c'est une bonne réputation, une bonne marque. N'est-ce pas vrai? Il y a peut-être un restaurant en ville. On peut nommer certains restaurants, ah, bonne réputation. Eux autres, ils ont vraiment, c'est la meilleure poutine en ville. Hein? Là, vous vous êtes réveillés. Hein? C'est la meilleure poutine en ville. Ou, ah, oh, telle place, ça c'est la place. Si vous voulez avoir une pizza ou si vous voulez avoir les... n'importe quoi. Hein? Je ne devrais pas parler trop de la nourriture, c'est trop proche de midi. Mais Dieu veut que nous ayons une bonne réputation. Quand les gens entendent la vie comblée, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quand les gens entendent chrétien, enfant de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser? Comme quelqu'un a dit, mais je ne vais pas dire ça, non. On va sauter et on va aller à une autre chose. Je pense à des personnes qui ont une bonne réputation, comme Billy Graham. Est-ce qu'il y a des gens qui... Vous savez de qui je parle, Billy Graham. Un grand prédicateur, un homme de Dieu, un homme de bien. Cet homme est un homme qui a gagné une bonne réputation, pas juste parmi les chrétiens, mais parmi les non-croyants aussi. Quand le président des États-Unis veut faire quelque chose ou veut avoir du conseil, ça fait pas juste un président, mais plusieurs présidents des États-Unis sont souvent au téléphone pour appeler Billy Graham, qui est un chrétien, qui prêche la parole, il ne fait pas autre chose, c'est pas un homme d'affaires, c'est juste un prédicateur de l'Évangile. Mais c'est un homme du bien. Il a gagné une réputation et les gens lui font confiance. Et c'est ça que je veux aussi. C'est comme j'ai entendu quelqu'un dire, surtout si on veut atteindre le monde dans notre ville, si on veut atteindre les personnes dans notre ville qui ont besoin du Seigneur Jésus-Christ, il va falloir qu'on gagne leur confiance avant de gagner leur âme. Vous êtes d'accord? Alléluia. Donc, on va voir aujourd'hui comment développer une bonne réputation. On voit que c'est important. On voit que c'est essentiel pour une vie heureuse. On ne peut pas être heureux dans la vie si on a une mauvaise réputation. Et j'ai quelque chose de soulageant. Si vous avez une mauvaise réputation, ça, c'est une chose qui peut être changée. Ça prend du temps, ça prend d'efforts, mais on peut changer une mauvaise réputation en bon. Amen. Alléluia. Donc, deux choses qu'on va voir, c'est dans vos notes, selon la parole de Dieu, la bonté, tout le monde dit la bonté, et la fidélité sont les ingrédients indispensables pour bâtir une bonne réputation. C'est ça qu'on a lu, n'est-ce pas? Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Parce que c'était marqué, tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes, et tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Donc, si on veut devenir un homme, une femme, une église, une compagnie, qui est reconnue comme des personnes qui ont du bon sens, ça va prendre deux choses. La bonté et la fidélité. C'est vrai, n'est-ce pas? Regardons les versets qui disent la même chose. Comme Jésus va nous dire, ceux qui vont se rendre au ciel après avoir vécu leur vie ici sur la terre, après avoir servi le Seigneur, après avoir fait la volonté de Dieu sur la terre, Jésus va dire ces mots. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle. On dit bon et fidèle. Serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc, une vie heureuse sur la terre et une vie heureuse au ciel dépend de la bonté et la fidélité dans notre vie. Si on est un bon serviteur et si nous sommes un fidèle serviteur, nous allons avoir une bonne réputation avec Dieu et avec les hommes. Et rendu au ciel, on va entrer dans la joie de notre maître. Ça, c'est fort, n'est-ce pas? Regardons bien Néhémie 13:13. C'est Néhémie qui parle et dit, « Je confiais la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Sadoc, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignais Anan, fils de Zaccur, ce sont des bons noms, hein, fils de Mataniah, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire des distributions à leurs frères. » Il y avait une tâche importante à faire dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole ici? C'est que les gens qui ont été connus, qui avaient une réputation pour être fidèles, c'est eux qui ont reçu la tâche. Dieu a confié, à travers l'homme de Dieu, il a confié cette tâche à eux parce qu'ils avaient la réputation d'être fidèles. C'est quoi notre réputation aujourd'hui? Est-ce que nous avons une réputation d'être fidèles? Sinon, on va le changer. Alléluia. Donc, deux choses à faire pour développer la bonté et la fidélité. Numéro un, dégagez par vos actions l'amour parfait de Dieu. La bonté égale l'amour. C'est vrai, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est plein de bonté, c'est quelqu'un qui aime. C'est pourquoi la Bible dit, dans Philippiens 4, regardez dans vos notes, « Soyez aimables et bons envers tous les hommes. » Que tout soit... Est-ce que vous avez vu? Devant tous les hommes. « Soyez... » aimable et bon envers tous les hommes, que tous soient obligés de reconnaître votre douceur et votre désintéressement, rappelez-vous que le Seigneur est proche. Donc encore, Dieu nous commande d'être bon envers tout le monde. Si nous sommes bons envers les gens, nous allons avoir une bonne réputation. On pense au commerce même. Il y a des commerces que les gens ne sont pas trop bons vers les clients. Vous savez de quoi je parle? Ils ne donnent pas un bon service. Ils peuvent avoir un bon produit. Ils peuvent avoir le meilleur produit. Mais si, à chaque fois, par exemple, dans un restaurant, à chaque fois que vous allez et vous commandez, la serveuse a l'air vraiment dérangée par ta présence, je pense que je vais aller chercher une autre liqueur pour toi, mais ça fait pas mon affaire. Hein? Je suis occupé. Est-ce que tu peux pas voir que j'ai 5 autres tables? Il faut que je m'en occupe. Une personne qui agit de même, qui ne démontre pas, qui ne dégage pas la bonté, ne va pas rester en affaire longtemps. Vous êtes d'accord? Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Si à chaque fois que nous sommes avec les gens de dehors, nous avons l'air triste, nous avons l'air grognon, nous avons l'air vraiment méchant ou pas gentil, qu'est-ce que le monde va penser? Je veux rien savoir de Jésus. Les gens sont plus heureux au bar. C'est vrai, hein? Jim est d'accord. Grazie, Signore. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça, c'est hébreu. Regardez bien dans vos notes. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je le suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais, verset 15, si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. La bonté égale marcher dans l'amour. Amen. Et si on marche dans l'amour, on va développer une bonne réputation. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Celui, et voici souligné cette partie de du verset, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Donc, on voit ici comment bâtir une bonne réputation. Marcher dans l'amour. Tout ce que je fais, il faut que ça soit par amour. Il faut que ça soit fait par amour. On va regarder un autre verset qui dit essentiellement la même chose, Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32, soyez bons. Tout le monde dit, soyez bons. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On parle de comment établir une bonne réputation, comment avoir la faveur devant Dieu et devant les hommes. Et dans ces versets, il y a sept choses, je vais juste vous les donner vite et vous pouvez les écrire et les méditer à la maison. Premièrement, on a vu dans ces versets, jugez-vous vous-même au lieu de juger les autres. Quelqu'un est toujours prêt à critiquer les autres, ce n'est pas une personne qui va développer une bonne réputation, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous aimez les gens qui critiquent? Ce n'est pas agréable d'être avec eux. Ce n'est pas vraiment agréable d'être avec quelqu'un qui est toujours en train de critiquer les autres. C'est mieux de voir les personnes qui se jugent soi-même et qui se mettent en ordre. Deuxième chose, réfléchissez sur l'effet de vos actions sur les autres. Voulez-vous bâtir une bonne réputation? Pensez! Si je fais telle chose, quel rapport est-ce que je vais développer avec les gens du dehors? Si, par exemple, Paul a mentionné les aliments. Il y a certaines choses qu'il a dit, c'est correct, c'est pas une chose qui est écrite noir et blanc, que c'est un péché, mais si je le fais, ça peut nuire à mon frère ou ma soeur dans le Seigneur. Donc, pensez, si j'agis d'une telle façon, si je fais une telle chose, quel message est-ce que j'envoie envers ceux du dehors et même envers ceux qui sont dans l'église? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je marche dans l'amour? Est-ce que je vis dans le fond pour moi-même ou est-ce que je vis pour les autres et pour Dieu? Ça, c'est la question à se poser. Alléluia! Donc, vois-tu, une personne avec une bonne réputation, c'est une personne qui n'est pas égoïste. C'est comme un magasin, un commerce. Un bon commerce va toujours dire... Le client a toujours, quoi? Raison. Qu'est-ce que ça fait pour vous quand vous allez quelque part et le personnel dans un magasin est critique? Moi, je suis allé quelque part hier et j'ai posé une question à quelqu'un. Peux-tu faire telle chose? Elle m'a regardé que si j'avais quatre yeux dans le front. Ah, mais franchement, ça serait bien trop de troubles. C'est correct. Moi, je demande la même chose à une autre compagnie en ville et ils font ça toujours avec un sourire. Mais là, c'est comme... Mais si on va quelque part où les gens disent le client a toujours raison, ça nous donne le goût de retourner, n'est-ce pas? Je parle du goût de retourner à l'autre place parce que, écoute, je ne suis pas si fou que ça et les autres le font pour moi, donc gloire à Dieu. Recherchez en tout temps la paix et l'édification mutuelle. Quelqu'un qui a une bonne réputation, c'est quelqu'un qui essaie toujours de bâtir les autres. Il n'essaie pas de descendre les autres, mais il bâtit les autres. Il édifie les autres, il fortifie les autres. L'autre chose, c'est travailler comme pour le Seigneur dans le but de bénir les autres. Comme on a lu ici, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Laisse-moi vous dire une chose. Il y a des personnes, des employés, qui ne durent pas longtemps, des fois, dans certaines places, parce que leur but de travailler, c'est juste égoïste. La seule et unique raison pour laquelle ils travaillent, c'est pour gagner des sous. Laisse-moi vous dire, si vous ne travaillez que pour gagner des sous, pour acheter votre nourriture, pour acheter des petits jouets pour vous-même et votre famille, ça ne marche pas. Selon la parole de Dieu, on devrait travailler avec nos mains, dans le but de faire quoi? Qu'est-ce qui est marqué? Dans le but de donner, tout le monde dit donner, dans le but de donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc, on réalise que quand je travaille pas juste pour moi-même, je travaille pas juste pour gagner mon pain, mais je travaille pour gagner une semence. Je veux être béni pour devenir une source de bénédiction. Amen? Les personnes qui travaillent comme ça, ou l'employé qui travaille pas juste pour mettre de l'argent dans la poche, mais pour vraiment bâtir la compagnie. Il s'intéresse à la réputation, pas juste de lui-même, mais de toute sa compagnie. Il y a des places comme ça, et on sait que chaque membre de l'équipe travaille fort pour établir une bonne réputation avec la ville. Amen? Et ça, c'est agréable. C'est ça que Dieu veut pour nous aussi. Des choses pratiques ce matin. Parle bien des autres. Comme c'était marqué, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Laisse-moi vous dire, vous voulez avoir une bonne réputation, parlez en bien des autres. Si vous parlez dans le dos des autres, laisse-moi vous dire, vous n'allez pas aller loin. Ni avec le Seigneur, ni ici sur la terre, dans une compagnie, avec n'importe qui, tu vas avoir de la difficulté, de la misère, votre vie ne serait pas une vie heureuse. Gardez votre bouche, veillez sur vos lèvres et parlez toujours en bien des autres. Après ça, gardez votre cœur de toute amertume, colère et méchanceté, comme on a lu dans le verset, et pardonnez les autres de la même façon que Dieu vous a pardonné. Que c'est important. Les gens qui sont prompts à pardonner sont les gens qui développent une bonne réputation avec Dieu et les autres. N'est-ce pas vrai? Amen. Deuxième chose, développez la fidélité à l'exemple de Christ. Si vous voulez avoir une bonne réputation, il faut être bon et il faut être fidèle. Bon et fidèle. Bon et fidèle. Donc, pour ce qui concerne la fidélité, on a déjà fait tout un message sur la fidélité. On a dit que la fidélité, c'est la constance. On est le même. Moi, je suis constamment fidèle à ma femme. Ça marche pas si je dis, oh, chérie, j'étais fidèle à toi 3 jours de cette semaine, mais les autres 4 jours, j'étais infidèle. Qu'est-ce qu'elle va dire? Non, 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 ça marche pas de même. Même chose avec Dieu. On peut pas dire, Seigneur, j'étais fidèle à toi 6 jours cette semaine, mais vous savez, le 7e jour, j'avais besoin de me laisser aller un petit peu. Non, non, non. Soyez fidèle. Soyez constant. Quelqu'un qui est fidèle à son travail, il est constamment là au travail. Il fait qu'est-ce qu'il est supposé de faire, il le fait constamment. Amen. Verset 40. Or, je veux que vous lisiez l'exemple de Jésus-Christ parce que Jésus est notre modèle, il est notre exemple. Et je veux juste finir avec ceci aujourd'hui. Or, l'enfant, ça parle de Jésus, croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. On a dit que si on saisit la sagesse, c'est comme un arbre de vie pour nous. Une longue vie est dans sa droite, la richesse et la gloire sont dans sa gauche, et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. On voit la fidélité de ses parents, n'est-ce pas? Ils allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils entrèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Vous allez dire, mais comment est-ce que ça se peut qu'ils ont fait un voyage, ils ne savaient pas que Jésus n'était pas avec eux. C'est parce qu'à l'époque, les hommes voyageaient avec les hommes, les femmes voyageaient avec les femmes, et d'habitude, les petits, jusqu'à l'âge de 12 ans, marchaient avec maman, et les plus grands marchaient avec papa. Jésus avait quel âge? 12 ans. Il était entre les deux. Donc, sûrement, Joseph pensait, mais il doit être avec Marie, Marie pensait, il doit être avec Joseph. Mais imaginez, hein, quand ils se sont rendus compte, on a perdu le Messie. Quelque chose, hein? Vous pouvez rire un peu aujourd'hui, hein? Imaginez, ils ont la responsabilité d'élever le Messie, puis ils l'ont perdu. Et il continue en verset 44. « Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. » Soulignez la phrase « au milieu des docteurs ». Les écoutant et les interrogeant, ça c'est une autre chose à souligner. Verset 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Encore, hein, il dit des choses bizarres des fois. Sa mère regardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52. Et Jésus, non pardon, 50, mais il ne comprit ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Soulignez cette phrase, il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La fidélité de Jésus-Christ. Et là, on va dire, oh, mais ça, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est facile pour lui. Laisse-moi vous dire une chose. Jésus, oui, il était le Fils de Dieu. Mais il n'avait pas une onction spéciale à cette époque de sa vie. Il n'était pas encore baptisé. Le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur lui. Il vivait sur la terre comme un homme, comme vous et comme moi. Et Jésus, même s'il était avec Dieu dès le début, même s'il était Dieu, quand il est devenu homme, il a mis à côté sa gloire, il a mis à côté ses puissances et ses pouvoirs pour être obligé de marcher comme vous et moi. Et moi, je ne crois pas qu'à l'époque, quand Jésus avait 12 ans, qu'il était omniscient. Jésus-Christ ne connaissait pas toutes choses avec son intellect humain parce qu'il avait quand même un cerveau humain. Il y avait des choses qu'il savait dans son cœur par l'esprit, mais il y a des choses que Jésus avait besoin d'apprendre. Et comme un bon juif, il étudiait la parole de Dieu. Et il a étudié les premiers 5 livres de Moïse. Et chaque enfant en Israël, chaque garçon de 13 ans était supposé d'être capable de citer par cœur tous les 5 livres de Moïse. Et je suis convaincu que Jésus était le meilleur parmi tous. Amen. Mais regarde bien. On voit dans la vie de Jésus plusieurs choses qu'on peut imiter. Première chose, soyez disciplinés par rapport à votre croissance personnelle. Jésus, c'est marqué en verset 40, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. » Tout le monde dit « se fortifier ». Ça me montre qu'il n'était pas fort automatiquement. Jésus, l'enfant, avait besoin de faire les choses pour se fortifier. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Moi, je suis sûr qu'il étudiait le Torah, les 5 livres de Moïse. Il faisait toutes les choses nécessaires pour grandir et pour se fortifier. Et au fur et à mesure, le Seigneur lui a montré sa mission. Amen. Alléluia. Et quand, un jour, j'imagine, la journée même qu'il a vu l'agneau qui a été sacrifié et immolé, que quand la révélation a déclenché dans son cœur que ça c'est moi, ça c'est ma destinée, je suis destiné à devenir l'agneau sans tache qui va être immolé pour les péchés du monde. Ça doit être quelque chose, n'est-ce pas? Imagine ce garçon juif qui voyait ça. À toutes les années, il voyait à Jérusalem les agneaux immolés. Et là, il sait, je suis l'agneau immolé avant la fondation du monde. Mais une autre chose que Jésus a fait, et vous aussi, vous avez besoin de faire cela. Priez, prenez du temps dans la parole. Il faut croire, il faut grandir. Un arbre qui ne croit plus est mort. Vous êtes d'accord? Et un chrétien qui arrête de grandir est mort spirituellement. Donc, soyez disciplinés par rapport à votre croissance personnelle. Ça va vous donner une bonne réputation. Une autre chose, choisissez bien votre entourage. Quand Marie et Joseph ont trouvé Jésus, où est-ce qu'il était? Il était au milieu des docteurs. C'était un garçon de 12 ans. Au lieu de jouer avec les autres, au lieu de gaspiller son temps, on pourrait dire juste en jouant, il a choisi bien son entourage. Il y a certaines personnes qu'on ne peut pas choisir. Mais il y a d'autres personnes qu'on peut choisir. Avec qui est-ce que vous allez passer la plupart de votre temps? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Choisissez bien votre entourage. Jésus était sage. Et il était fidèle. Il se trouvait au milieu des docteurs. Alléluia. Mais regardons bien. Troisième chose. Gardez un cœur humble et enseignable. Qu'est-ce qu'il faisait au milieu des docteurs? Est-ce qu'il a dit, écoutez, monsieur, je veux juste que vous sachiez que je suis le Messie. Que je suis le je suis. Amen. Il n'a pas commencé à enseigner les anciens d'Israël, mais il avait du respect pour eux, il avait un cœur humble et il restait enseignable. Qu'est-ce qu'il faisait?
il était assis au milieu des docteurs, il les écoutait et il les interrogeait. Amen.
Voulez-vous avoir une bonne réputation avec Dieu et les hommes? Soyez humble et restez enseignable. N'arrivez pas à la place dans votre vie chrétienne où vous pensez, je sais tout, j'ai déjà fait tout ce qu'il faut faire dans la vie chrétienne, je connais tous les versets de la Bible par cœur. Restez toujours là, on a le Fils de Dieu qui pose des questions aux anciens d'Israël. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Voyez-vous l'humilité? C'est vraiment quelque chose. Et c'est pourquoi il grandissait en faveur avec Dieu et les hommes. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Oui, bien sûr, il a ouvert sa bouche. Il a dit les choses aussi. Ils ont resté frappés. Waouh! Ça, c'est un gars qui a une connaissance des Écritures et une sagesse qui est vraiment incroyable. Bon, quatrième chose, ayez une passion pour votre mission dans la vie. Si vous voulez avoir une bonne réputation, soyez fidèle en grandissant personnellement, en choisissant un bon entourage, en restant humble et enseignable, mais ayez une passion pour votre mission. Comme Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Si vous êtes une personne qui est résolue dans la vie, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire, vous savez c'est quoi votre mission et vous êtes fidèle à votre mission, ça va vous donner une bonne réputation. Billy Graham, pourquoi est-ce qu'il a une bonne réputation aujourd'hui? Il a reçu une mission de Dieu, d'évangéliser. Il n'a pas fait autre chose que ça. Et il a une passion. Il est prêt avec même à faire des sacrifices pour accomplir sa mission. Jésus était prêt à faire le plus grand sacrifice pour accomplir sa mission. Et nous avons besoin d'être prêts à faire des sacrifices pour accomplir notre mission et être fidèles. Et laisse-moi vous dire, quand on est passionné pour notre mission, que ce soit en tant que père, mari, employé, que ce soit dans n'importe quel domaine, quand on est passionné pour notre mission, ça nous donne et ça bâtit une bonne réputation avec les autres. N'est-ce pas vrai? Je veux être une église qui est connue comme une église qui a une passion pour notre mission. Notre vision, c'est de faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà. Si on va le faire, il faut avoir une bonne réputation. C'est-à-dire qu'il faut avoir une passion pour notre mission. Alléluia. Et finalement, soumettez-vous à l'autorité que Dieu a établie dans votre vie. Là, on voit que Jésus a répondu, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Restez 5 ans. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Il était soumis à ses parents. Là, on voit le Créateur du monde soumis à sa propre création. Ça, c'est en laissant en humilité. Vous êtes d'accord? Parce que Jésus a compris l'autorité que Dieu a établie dans ce monde. Il y a quelque chose, ma femme a dit l'autre jour. Elle est allée à l'épicerie. Je ne vais pas nommer le magasin, mais elle était là en ligne. Et les caissières étaient en train de jaser entre eux. Et il y avait quelque chose, ils avaient une question et ils ont dit, bon, mais on va juste aller voir le gérant, on va demander. Puis, ils ont appelé. Quelqu'un est revenu en disant que, ah, désolé, mais les gérants sont en réunion actuellement. Ils ne peuvent pas être dérangés. Et tout de suite après, toutes les caissières ensemble commençaient à placoter. Oh, oui, ils sont en réunion. Trop occupés pour nous répondre. Devant les clients. Laisse-moi vous dire, c'est pas une bonne façon de bâtir une bonne réputation. Vous êtes d'accord? Jésus avait raison. Même ses parents, des fois, avaient peut-être tort, mais Jésus était soumis à l'autorité. Et Jésus a grandi en grâce et en faveur avec Dieu et avec les hommes. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de saisir là. C'est quoi votre attitude envers vos employeurs, envers ceux dans le gouvernement même? Des fois, le gouvernement, laisse-moi vous dire, ils font des choses, c'est pas bon. Mais on devrait quand même avoir du respect pour l'office des gouvernements et de prier pour eux. Amen? Il faut prier. Il faut démontrer un respect. Si on est fidèle et si on est bon, le résultat, c'est une bonne réputation, la gloire. Une réputation qui va nous ouvrir les portes, qui va faire en sorte que les gens vont nous faire confiance et qui rend une grande, grande récompense. Les promotions, les récompenses. Hein? Dans sa droite, c'est une longue vie, mais dans sa gauche, c'est la richesse et la gloire. Alléluia. On va se lever debout, on va prier. Je ne sais pas si quelqu'un peut aller chercher Tania pour qu'elle puisse jouer. Donald, merci.
C'était un peu différent comme message aujourd'hui, mais je trouve que c'est exactement ce dont nous avions besoin. Moi, je prends tout simplement Proverbes chapitre 3 et je vais prendre ces premières quelques versets, verset par verset, pendant les prochaines quelques semaines, et on va voir qu'est-ce que la Bible dit à propos de la sagesse qui est destinée à nous rendre heureux. Parce que je veux voir une Église heureuse et je veux voir les membres de l'Église qui sont épanouis, vraiment bénis dans tout ce qu'ils font. Est-ce que vous voulez être ce genre de personne? Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Pasteur. On va prier ce matin et on va demander que le Seigneur nous donne et nous accorde cette sagesse dont nous avons besoin pour bâtir une bonne réputation. Alléluia. Père, il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire concernant la fidélité, la bonté. On pourrait faire toute une série sur chaque sujet-là. Mais Seigneur, je crois qu'on a vu qu'est-ce que tu voulais qu'on voit. C'est que tu nous appelles à devenir une Église glorieuse, triomphante, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu veux qu'on soit consacré, séparé, mis à part pour ta gloire. Tu veux, Seigneur, que nous soyons un peuple heureux, une Église heureuse. Pour être heureux, il faut trouver la sagesse et l'intelligence. Et la sagesse nous aide, Seigneur, à marcher dans la bonté, dans la fidélité, pour établir une bonne réputation, pour établir un bon nom devant toi et devant les hommes. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, on a tous fait des choses dans le passé qui ne sont pas correctes. On a tous fait des choses qui ne sont pas un bon témoignage, mais Seigneur, ton esprit est là, ta grâce est là, ton sang est là pour nous purifier. Merci Père Céleste. Avec tous les yeux fermés, j'aimerais juste donner cette invitation, comme je donne à toutes les semaines. Si vous êtes ici ce matin, on va prier dans une minute juste pour vraiment se consacrer à 100% à Jésus-Christ. Si vous êtes là et vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, si aujourd'hui vous mourrez, vous n'êtes pas sûr et certain d'aller au ciel. Vous n'avez pas l'assurance d'être né de nouveau. Je vais juste vous donner cette bonne nouvelle. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est un don gratuit, juste entre toi, moi et le Seigneur, avec tous les yeux fermés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui lèverait la main en disant, « Pasteur, je veux que tu pries pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux être sûr et certain d'avoir la vie éternelle. » Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je te lève la main. Je connais presque tout le monde ici ce matin. La semaine prochaine, j'aimerais voir beaucoup de visages que je ne connais pas. Mais je crois que nous sommes tous des personnes nées de nouveau ce matin. Et j'aimerais qu'on prenne juste une minute. On va chanter un dernier chant pour terminer. Mais on va prendre juste une minute de sonder notre cœur, de dire, « Seigneur, montre-moi si je peux marcher davantage dans la bonté et dans la fidélité pour avoir une bonne réputation et un bon nom devant toi et devant les hommes. Sondons notre cœur. Dieu veut faire une œuvre en nous. Dieu veut susciter une Église qui est reconnue comme une Église digne de confiance. Merci, Père Céleste. Père, je prie pour chaque personne ici présente. Je prie pour moi-même, pour ma famille. On a tous des manquements, on a tous des faiblesses. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. On va se juger soi-même. Montre-nous, Seigneur, s'il y a des choses à changer. Si je peux marcher davantage dans la bonté et dans la fidélité, montre-moi, Seigneur. Seigneur, que ce message ne passe pas au-dessus de notre tête. Ça ne rentre pas dans l'oreille puis juste pour rester là. Mais qu'on soit ceux qui mettent en pratique la parole, ceux qui sont heureux. Au nom précieux de Jésus. Et tout le monde qui est d'accord avec cette prière dit Amen. On va chanter juste un dernier chant. Puis moi, je vais aller à la porte vous donner la main.